Les mystères du Palais Royal, troisième partie. Chapitre 10. La mère Moloch. La maison devant laquelle avait eu lieu le combat dont nous avons raconté dans le précédent chapitre les péripéties et le dénouement était sale, noire, éraillée, bâtie moitié en bois, moitié en moellons et en plâtras disloqués, et n'avait que 3 étages de hauteur. Or, tandis que Raoul luttait contre 2 assassins, voici ce qui se passait à l'étage le plus élevé de cette maison, dans un logis, ou plutôt dans un bouge délabré, qui avait quelque chose de sinistre. Figurez-vous, une pièce de moyenne grandeur, dont les murailles nues disparaissaient presque entièrement sous une couche de moisissure verdâtre. Des solives, mâles et caries, et des planches disjointes tenaient lieu de plafond. Un grossier carrelage recouvrait le sol. Un grand rideau, déchiré par places et retenu par des anneaux de fer qui glissaient sur une longue tringle, coupait cette pièce dans toute sa longueur et formait ainsi 2 chambres d'inégale grandeur, car l'une était des 2/3 plus large que l'autre. Dans le compartiment le plus étroit se trouvaient 2 lits, ou plutôt 2 grabats recouverts de draps d'une blancheur douteuse et de couvertures ressemblant aux tartans déchiquetés des mendiantes irlandaises. L'étoffe du rideau qui cachait ces grabats avait été belle autrefois, mais c'est à peine si maintenant, au milieu des taches et des trous, on distinguait d'une façon vague les couleurs jadis éclatantes de son lampat oriental. Devant la cheminée, un fourneau de terre servait à préparer les aliments. Un grand bahut de chêne, une table carrée et 4 chaises composaient tout le mobilier. Sur la table, il y avait une petite lampe de cuivre, une carafe de cristal de bohème remplie d'une eau transparente, un énorme chat noir qui ronflait couché en rond, et un vieux corbeau à demi déplumé, endormi sur une patte et la tête sous son aile. De chaque côté de cette table, 2 femmes étaient assises en face l'une de l'autre. L'une était vieille et l'autre jeune. La vieille pouvait avoir 60 ans. Elle était très grande et très maigre. Peut-être avait-elle été belle autrefois, quand une chair jeune et brune recouvrait les traits de ce visage aujourd'hui tanné et parcheminé. Ses grands yeux noirs, enfoncés dans de profondes orbites, lançaient par moments les éclairs d'un feu sombre. Son nez, fortement aquilin, imprimait à son profil une vague ressemblance avec celui d'un oiseau de proie. Ses joues creuses et sa bouche rentrées en dedans donnait à la partie inférieure de sa figure une expression sinistre. Le costume que portait cette femme ajoutait encore à l'étrangeté presque effrayante de son apparence. Sur sa tête, un mouchoir de soie jadis écarlate se nouait en forme de ruban. De longues mèches de cheveux gris s'échappaient à travers les déchirures nombreuses de cette coiffure singulière. Une large robe d'étoffe noire à manches flottantes serrée à la taille par une corde, enveloppait ce long corps osseux. Sur cette robe, des figures bizarres et sans doute cabalistiques étaient brodées en rouge. La vieille femme que nous venons de décrire, et qui jouissait d'une immense réputation dans le quartier comme magicienne, tireuse de cartes, chiromancienne, astrologue, diseuse de bonne aventure et vendeuse de remèdes secrets et infaillibles, se nommait la mère Moloch. Quant à la jeune fille qui se trouvait en face d'elle, nos lecteurs la connaissent déjà. Nous la leur avons présentée à 2 reprises différentes. D'abord dans la maison de Nathan, auprès de la belle juive Déborah, puis à l'angle de la rue Richelieu et de la rue Saint-Honoré, heurtant Monsieur de la Tremblay dans sa course, ou plutôt heurtée par lui. C'était en un mot la fille du diable, ainsi appelée sans doute parce qu'elle était, ou tout au moins parce qu'elle passait, pour être la fille de la mère Moloch. Or, il n'est personne qui ne sache à merveille que ce nom de Moloch appartient à un vieux démon qui est sans conteste un des plus hauts et des plus puissants seigneurs du royaume des enfers. « Ma mère, entendez-vous ? » fit tout à coup la jeune fille en prêtant l'oreille. « Quoi ? » demanda la vieille femme. « On dirait qu'on se querelle dans la rue. » « Eh bien, que nous importe ? » La fille du diable quitta sa place. Elle se dirigea vers la petite fenêtre qui pendant le jour donnait un peu d'air et de lumière au taudis qu'elle habitait, et elle ouvrit cette fenêtre. C'était l'instant précis où les porteurs attaquaient Monsieur de la Tremblay avec leurs bâtons. Le bruit de l'acier sur le bois retentit net et distinct.
« Je ne me trompais pas, ma mère !» murmura la jeune fille. « Écoutez, écoutez !»«
Eh bien, on se bat en duel, voilà tout !»«
On ne se bat en duel ni à cette heure de la nuit, ni dans une rue de notre quartier !»«
Qu'est-ce donc alors, selon toi ?»«
Ce n'est pas un duel, ma mère, c'est un assassinat !»
La mère Moloch se prit à rire ironiquement, et elle répliqua. « Allons, ma pauvre Hébé, tu es folle, tout à fait folle !» La jeune fille n'entendit pas cette réponse. Elle écoutait, haletante, ce qui se passait dans la rue. L'épée de Raoul, brisée en plusieurs tronçons, tomba sur le pavé. Ce bruit monta jusqu'à la fille du diable et la fit tressaillir. Immédiatement après, un coup violent retentit avec un bruit mat et sourd. Puis un grand cri, puis la chute d'un corps, puis plus rien. La jeune fille poussa un gémissement étouffé. Elle quitta la fenêtre, elle cacha son visage dans ses deux mains, et elle balbutia.
« c'est fini, ils l'ont tué !»«
Qui ?» demanda la vieille femme.
« Je ne sais, mais je suis sûre qu'un crime vient d'être commis. »«
Cela ne nous regarde pas. Il n'y a rien à voler chez nous. Par conséquent, nous n'avons rien à craindre. Il est tard, et voici que notre lampe va s'éteindre. Allons, couchons-nous, et dormons. »
« Dormir ?» s'écria la jeune fille. « Le pourrez-vous, ma mère ?»«
Oui, certes. »«
Moi, je suis tremblante.
Ce qui se passait tout à l'heure m'a glacé le sang dans les veines. » La mère Moloch se mit à rire de nouveau et reprit.
« Je le répète, ma pauvre Hébé, tu deviens folle, folle alliée. »
Hébé, puisque tel était le petit nom de la fille du diable, Hébé, disons-nous, ne répondit rien. Une ou deux minutes s'écoulèrent. Puis on entendit dans le lointain s'approcher la ronde du guet. La jeune fille quitta la chaise sur laquelle elle s'était assise et courut de nouveau à la fenêtre.
« Ils vont trouver le corps » pensa-t-elle.
Et à mesure que les soldats approchaient, son cœur cessait de battre. Nous savons déjà que la ronde passa sans s'arrêter. Aussitôt que le silence fut redevenu complet dans la rue, Hébé saisit la petite lampe de cuivre dont la mèche épuisée jetait des clartés mourantes. Elle se dirigea vers la porte.
« Où vas-tu ? » lui demanda la vieille femme.
« Je descends. »«
Pourquoi faire ? Il faut absolument que je sache ce qui s'est passé. Il faut absolument que je voie s'il y a du sang sur le pavé, devant notre maison. »
Et la jeune fille s'engagea dans l'escalier.
« Attends-moi du moins ! Attends-moi donc !»
lui cria d'une voix rageuse la mère Moloch, qui peut-être ne se souciait pas de rester seule dans les ténèbres. La jeune fille s'arrêta aussitôt. Sa mère la rejoignit et descendit à la suite en grommelant et en répétant
« Oui, elle est folle, 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 folle !»
Les trois étages furent bientôt franchis. Les deux femmes atteignirent le bas de l'escalier. L'allée était profonde, étroite, puante. La fille du diable fit avec sa main une sorte de réflecteur qu'elle plaça derrière la lampe afin de projeter la lumière en avant. Le couloir se trouva ainsi faiblement éclairé dans toute sa longueur. Soudain, la jeune fille poussa un cri et recula d'un pas. Elle venait de distinguer un corps humain étendu sur le sol.
« Quoi ? Qu'y a-t-il ? »
demanda la mère Moloch en remontant trois marches de l'escalier aussi vite que le lui permirent ses vieilles jambes.
« Il y a, mère, que je ne m'étais pas trompée, qu'un crime a été commis, qu'on vient d'assassiner un homme, et que le cadavre est là. »«
Tu en es sûre ? » fit la vieille femme, dont les yeux fatigués ne pouvaient percer l'épaisseur des ténèbres aussi bien que ceux d'Hébé.
« J'en suis sûre, je le vois. Venez !»
Chapitre 11 Sur la première marche de l'escalier. La fille du diable, toujours suivie par la mère Moloch, à une distance de deux ou trois pas, s'avança jusqu'auprès du corps étendu, dont l'immobilité absolue ressemblait à la mort. Elle projeta la lumière de sa lampe sur le pâle visage du jeune homme et elle poussa un faible cri en le reconnaissant. On se souvient que peu d'heures auparavant, la jeune fille avait rencontré Raoul et que cette rencontre avait produit sur elle une assez vive impression pour lui faire désirer d'être suivie par ce gentilhomme. L'exclamation d'Hébé n'échappa point à la mère Moloch.
« Est-ce que tu connaîtrais ce dame oiseau par hasard ? »
demanda-t-elle vivement.
« Non, non, ma mère !»
se hâta de répondre la jeune fille.
« Bien vrai ! Je vous l'affirme !»«
Alors, pourquoi sembles-tu si surprise et si troublée ?»«
Je ne suis point surprise, ma mère. Quant à mon émotion, je ne puis la dominer, je l'avoue. Songez donc que nous sommes en présence d'un cadavre, qui, il y a quelques minutes, était rempli de vie et d'avenir. »
« Bah !» reprit la vieille femme, « je ne vois pas de traces de sang et rien ne prouve que ce jeune homme ait cessé de vivre. »«
Le croyez-vous ? » s'écria Hébé.
« Je ne dis pas que je le crois, mais je dis que tout est possible. »«
Pourquoi ne pas vous en assurer ?»«
Je veux bien le faire, mais d'abord... »«
Eh bien !»«
D'abord, va fermer la porte de la rue et pousse les verrous intérieurs. »« Les assassins de ce gentilhomme n'auraient qu'à revenir, et s'ils nous trouvaient là... » et nous ferait sans doute un mauvais parti. » La fille du diable fit tout aussitôt ce que sa mère lui demandait. Puis elle revint auprès de la vieille femme. Cette dernière, complètement rassurée à l'endroit des appréhensions que nous venons de lui entendre manifester, avait, non sans peine, ployé le genou à côté du corps de Raoul. L'une de ses mains s'appuyait sur le cœur et l'autre sur la veine du poignet droit du jeune homme. Au bout d'une ou deux secondes, sa taille raidie se redressa. Hébé étudiait anxieusement l'expression du visage de sa mère, mais ce visage ne disait absolument rien. Il fallut que la jeune fille interrogeât. Elle le fit d'une voix faible.
« Eh bien ? »
demanda-t-elle.
« Eh bien, » répondit la mère Moloch, « le pouba, calme et plein, exactement comme si ce gentilhomme dormait. »«
Alors, il n'y a pas de danger ?»«
Aucun. »«
Que Dieu soit béni !»«
Amen !» fit la vieille femme en ricanant.
« Savez-vous où est la blessure ?»«
S'il en avait une, le sang coulerait, et je n'en vois pas trace. »«
Cependant, ce jeune homme ne s'est pas évanoui sans motif. »«
C'est probable, mais je te le répète, je ne vois rien. »«
Il me semble qu'une gouttelette pourpre tache le haut du front. »«
Au fait, tu as raison, » répondit la mère Moloch, en passant ses longs doigts décharnés à travers les mèches épaisses des cheveux bruns de Raoul.
« Eh bien ?»
demanda la fille du diable pour la seconde fois.
« La blessure est à la tête, » répliqua la vieille femme.
« Dangereuse ?»«
Je ne crois pas, une simple contusion. »«
Une contusion ?»«
Oui, ce n'est pas un coup d'épée que ce jeune homme a reçu, c'est un coup de bâton. »« Et même, il a fallu que son crâne fût bien solide, car ce coup de bâton me fait l'effet d'avoir été rudement appliqué. »« La seule chose à craindre dans ce moment, c'est une congestion cérébrale. »
« Et n'y a-t-il pas un moyen d'éviter ce danger ?»«
Si, vraiment. »«
De quel ?»«
Une bonne petite saignée dégagerait immédiatement le cerveau. »«
Et le blessé reprendrait connaissance ?»«
Sans aucun doute. »«
Je vous ai entendu dire 100 fois, ma mère, qu'aucun des meilleurs médecins de Paris n'était capable de pratiquer une saignée avec plus d'habileté que vous. »«
Je l'ai dit, et cela est vrai. »«
Alors, vous pouvez guérir ce jeune homme ?»
« Oui, je le pourrais, mais... »
La mère Moloch s'arrêta.
« Mais quoi ? »
demanda vivement Hébé.
« Dans quel intérêt le ferais-je ? »
« L'humanité ? »
La mère Moloch haussa les épaules. Hébé comprit qu'elle faisait fausse route en s'adressant au cœur de la prétendue sorcière. Aussi, elle se hâta d'ajouter.
« D'ailleurs, ma mère, ce gentilhomme semble riche, et il n'est point douteux qu'il vous récompensera largement des soins que vous aurez pris de lui. »
Cet argument produisit un effet immédiat. Les dispositions de la mère Moloch se modifièrent en un clin d'œil. Elle aida de son mieux Hébé à porter, ou plutôt à traîner le corps de Raoul jusqu'au bas de l'escalier et à l'adosser à la première marche. Puis elle enjoignit à la jeune fille de courir jusqu'à la mansarde, d'en rapporter une lancette rouillée qui s'y trouvait enfouie sous un tas de chiffons. Elle demanda en outre quelques bandes de vieux linge et un vase quelconque qui peut servir à recevoir le sang. La fille du diable ne se fit pas répéter 2 fois cet ordre, et elle revint avec une promptitude surprenante. La mère Moloch fit ses préparatifs avec toute l'habileté d'un praticien émérite. Seulement, sa main, que l'âge rendait tremblante, et le triste état de sa lancette, la mirent dans la nécessité de piquer la veine à 3 reprises différentes avant que le sang parût. Mais au 3e coup, il jaillit avec une si grande abondance que les mains et une partie de la figure d'Hébé s'entrouvèrent couvertes. Elle se sentit devenir pâle et frissonnante sous cette rosée tiède et pourpre, et elle fut au moment de s'évanouir à son tour. Mais elle se soutint en saisissant la corde qui servait de rampe à l'escalier boueux. Elle essuya ses mains et son visage ensanglanté, et son émotion se calma. À mesure que le sang jaillissait de la veine ouverte de Raoul, l'effet prédit par la mère Moloch se réalisait en effet. Monsieur de la Tremblée ne tarda guère à pousser un profond soupir. L'évanouissement se dissipait. Le jeune homme souleva ses paupières alanguies, mais le regard qu'il promena autour de lui fut vague et incertain. Ses yeux ne voyaient point, ou tout au moins la perturbation momentanée apportée dans ses facultés morales par le terrible choc qui venait de lui ébranler le cerveau ne lui permettait de se rendre compte ni de ce qu'il voyait, ni de l'endroit dans lequel il se trouvait, ni des circonstances qui l'y avaient amené. La mère Moloch avait saigné Raoul au bras gauche. Il souleva sa main droite et il l'appuya sur le haut de sa tête à deux ou trois reprises. Là était le siège d'une douleur dont il cherchait évidemment à se rendre compte, mais sans y parvenir. La vie du corps était revenue, la vie de l'âme tardait encore. La fille du diable suivait du regard avec une anxiété pleine de troubles et de passion chacun des mouvements de Raoul. Chapitre 12. Réveil. Cependant, le sang coulait toujours. L'écuelle de faïence apportée par Hébé était pleine jusqu'au bord. Raoul, déjà très pâle, pâlissait de plus en plus, et les symptômes d'une prochaine défaillance commençaient à se manifester chez lui. « Allons, » dit la mère Moloch, « je crois qu'en voilà assez. » Et elle appuya son pouce sur l'ouverture de la veine, tandis que la fille du diable dénouait les bandes qui serraient le bras. Le sang s'arrêta aussitôt. D'après les indications de sa mère, la jeune fille plaça et assujettit des compresses solides. Puis, quand ce fut terminé, elle dit « Maintenant, qu'allons-nous faire ?»« Puisque nous avons commencé la cure, » répliqua la mère Moloch, « il faut l'achever. Ce jeune homme ne peut ni retourner chez lui dans ce moment, ni rester là au bas de cet escalier. Il faut qu'il monte avec nous et couche dans notre mansarde. » C'était là ce que la jeune fille désirait le plus au monde. Mais elle n'aurait osé en faire la proposition à la mère Moloch. Aussi, en entendant les paroles de cette dernière, son cœur tressaillit de joie. Seulement, poursuivit la vieille femme, « comme il nous est impossible de porter ce jeune homme à nous deux, il faudra qu'il tâche de marcher, et tu le soutiendras. »« Oui, ma mère, » fit la jeune fille, et se retournant vers Raoul, elle lui dit de la voix la plus douce, « Monsieur !» Cette voix frappa l'oreille de Raoul, mais il l'entendit comme on entend dans un rêve. Cependant, ses lèvres balbutièrent machinalement. « Mademoiselle, voulez-vous essayer de vous lever ?» poursuivit Hébé. Raoul fit un effort pour se remettre sur ses jambes, mais il ne put en venir à bout, et il retomba sur la marche de l'escalier qui lui servait de siège. La fille du diable lui prit la main afin de l'aider. Le jeune homme, soutenu par ce point d'appui, essaya un nouvel effort et parvint à se tenir debout. Mais tout semblait tourner et bondir autour de lui. Des bruissements étranges emplissaient ses oreilles. Sa faiblesse, en outre, était grande. Elle serait tombée de nouveau si Hébé ne lui eût jeté ses deux bras autour du corps afin de le soutenir. « Venez maintenant, » murmura-t-elle. Et tout en continuant à l'enlacer, ainsi qu'elle venait de le faire, elle franchit deux ou trois marches de l'escalier et les lui fit franchir avec elle. Depuis l'allée où s'était passé tout ce qui précède jusqu'au troisième étage qu'il s'agissait d'atteindre, l'ascension fut longue et pénible. À chacun des repos de l'escalier, il fallait s'arrêter, car Raoul et Hébé n'étaient guère moins épuisés l'un que l'autre. La mère Moloch, sa lampe à la main, marchait en avant et poussait des grognements sourds. Enfin, nos trois personnages arrivèrent à la mansarde. Il était temps, les forces manquaient à la jeune fille. Quelques marches de plus, et il aurait fallu laisser son œuvre incomplète. Elle guida, ou plutôt elle porta Raoul jusqu'à son lit à elle, sur lequel elle l'étendit. Puis, elle se laissa tomber, haletante, sur une chaise auprès de ce lit, et sembla près de défaillir. La mère Moloch continuait à grommeler d'une façon monotone et inintelligible. On ne pouvait saisir au passage aucune des syllabes que mâchait sa bouche démantelée. Mais voici quel était le sens de son monologue hargneux. Que de soucis, que de tracas, que de choses désobligeantes. Passer ainsi la nuit, à mon âge, ça n'a pas de bon sens. Et pour qui? Pour un inconnu. Encore, s'il paye cet inconnu, et s'il paye bien, il n'y aura que demi-mal. Mais paiera-t-il? Il a bonne mine, je ne dis pas non, et ses vêtements sont ceux d'un gentilhomme. Mais tout ce qui reluit n'est pas or. Et je ne me fie point à la mine. Depuis longtemps déjà, la petite lampe de cuivre menaçait de s'éteindre, faute d'huile. Depuis longtemps, la flamme vacillait au bout de la mèche qui se carbonisait peu à peu. Soudain, l'huile manqua tout à fait. La lueur agonisante tremblota une dernière fois et mourut. La mère Moloch profita de cette obscurité pour se couler dans son lit, tout en grommelant de plus belle. Mais le sommeil ne tarda guère à la visiter, et ses murmures moroses se métamorphosèrent en ronflements sonores. À peine Raoul avait-il touché le matelas du lit, qui s'était endormi profondément. La fille du diable veilla quelque temps encore sur une chaise où la clouait la lassitude. Mais malgré l'étrange agitation de son âme et de ses sens, la nature réclama ses droits et le sommeil vint lui fermer les yeux. Quand les clartés de l'aube matinale pénétrèrent dans la mansarde à travers les petits carreaux fermés de l'unique fenêtre, Raoul fut le premier qui s'éveilla. Beaucoup de faiblesse et un grand mal de tête, voilà tout ce qui résultait pour lui des événements dont la conséquence aurait pu être si terrible. Ses idées avaient repris toute leur netteté. Pourtant, dans le cours des premières minutes qui suivirent son réveil, il ne se souvint de rien. Il se souleva sur son coude et il regarda, ne reconnaissant pas sa chambre habituelle et ne comprenant point où il se trouvait. Il vit la jeune fille endormie près de son lit, et il se rappela aussitôt que ce n'était pas la première fois qu'il remarquait ce charmant visage. Sa mémoire interrogée lui remit sous les yeux la rencontre de la veille à l'angle de la rue de Richelieu et de la rue Saint-Honoré. Ce premier jalon guida ses autres souvenirs qui le conduisirent successivement chez le juif Nathan, à la maison de jeu, et enfin dans cette terrible chaise à porteur qui devait lui être fatale. Raoul se rappela à merveille toutes les circonstances de son combat contre les deux assassins, jusqu'au moment où il lui sembla qu'un voile s'interposait entre la réalité et ses souvenirs. Mais il était facile au jeune homme de suppléer à cette lacune. « J'ai été frappé, se dit-il, je me suis évanoui. Pendant mon évanouissement, on m'a volé sans doute, puis j'ai été recueilli et soigné par cette jeune fille. Tout cela est clair comme le jour. Allons, il n'y a pas grand mal, et si je n'avais eu 200 000 livres dans ma poche, j'en prendrais mon parti en brave. Mais perdre 200 000 livres d'un seul coup, diable, diable, c'est un peu dur. » Tout en se parlant ainsi, le jeune homme s'assit sur le bord du lit et se fouilla machinalement. Sa montre se trouvait, nous le savons, dans le gousset de l'un des voleurs. Les pièces d'or avaient suivi le même chemin. « C'est naturel, » murmura Raoul philosophiquement. « Je m'y attendais. Mais il faut convenir que voilà deux gredins qui ont fait un bien beau coup. » Cependant, la main du jeune homme continuait ses explorations. Dans la poche de l'habit, elle sentit un paquet de dimension moyenne et qui résistait sous les doigts. Raoul retira précipitamment ce paquet pour l'examiner. En reconnaissant le rouleau de billets de caisse, le jeune homme ne put retenir un grand cri de surprise et de joie. La mère Moloch s'éveilla. La fille du diable tressaillit et ouvrit les yeux.